nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Puis, elle sort de sa chambre. Pour aller à la salle à manger. Il est déjà assis, il se lève, et se dit, la jeunesse est égoïste, il a le sourire, elle s'assoit en face de lui, la bonne fait le service. Puis, une fois qu'elle a fini, elle sort de la salle à manger. Une fois que la bonne est sortie, il lui dit, tu verras, tu seras très bien après le divorce. Elle lui demande, pour lui faire du mal, il faut bien qu'il ait du mal lui aussi. Et que va penser ton amie lorsqu'elle va savoir que je suis ta femme et que tu es mariée? Il rougit et lui dit, j'expliquerai calmement. Elle lui dit, c'est vrai, la jeunesse a l'esprit large. Il ne dit rien. Elle voit qu'elle lui a fait enlever son assurance. Il doit être la jeunesse. Après le repas, elle monte à sa chambre. Elle lui dit, je suis fatigué. Ne lui dis rien. S'endormir. Ce n'est pas tant le divorce qui la cracasse, mais qu'elle ne l'aime pas ou plus. Elle se demande si elle pourra se passer de lui. Elle l'aime toujours autant. Elle est même prête à lui demander ses deux. Vivre, de rester avec lui ou eux. Mais non. Elle n'aura pas le courage de vivre au milieu d'eux, de savoir qu'ils s'aiment. La maison n'a pas de bruit. Il est 1h du matin. Elle se lève sans faire de bruit. Et sort de la chambre. Va dans la salle de bain. Ouvre la boîte en pharmacie. Prends des comprimés. Et sors de la salle de bain. Descends les escaliers. Au rez-de-chaussée, elle va à la cuisine. Éclaire et rentre. Va au placard. Prends un verre. Et une bouteille. Remplis le verre d'eau. Ouvre la boîte de comprimés, les met dans sa main, tous les comprimés, et les avale en buvant. C'est amer. Puis, elle va vers la cuisinière. Met le gaz en marche. Ouvre le four. Ça sur le dos. Et met la tête dans le four. Il ne lui reste plus qu'à attendre. Pour le moment, c'est qu'une odeur de comprimé dans la bouche, très amère, qui domine. Puis, une odeur de four qui a servi et qui n'a pas été nettoyée. Une odeur âpre qui devient chaud. Il ne sent rien pour le moment. Elle se dit qu'elle aurait peut-être dû mettre des tuyaux de gaz dans la bouche. Ça aurait été plus vite. Elle se dit aussi que le gaz donne une mort douce, calme, euphorique. Que l'on a l'impression de planer, planer. Elle ne veut pas souffrir, mais perdre conscience petit à petit. Mais qui peut dire que l'on meurt sans souffrir? Personne. Car ceux qui sont morts ne reviennent pas. Alors, elle sent de plus en plus l'odeur de gaz. L'odeur désagréable qui donne mal à la tête. Elle a de plus en plus mal à la tête. Et un peu froid. Au bout d'un moment, elle voit tout tourner. Son corps bat de plus en plus fort. Elle a l'impression de nager dans un brouillard. Elle voit de plus en plus trouble. Petit à petit, elle perd conscience. C'est le trou noir. Frédéric, dans son sommeil, a entendu du bruit, des pas, une porte qui claque. Il était tellement dans son sommeil, il n'a pas voulu se réveiller. Pourtant, quelque chose lui disait qu'il fallait qu'il se réveille. Allez voir. S'est rendormi profondément. Tout d'un coup, des coups dans la tête. Il se réveille, essoufflé, et comprend que l'on tape à la porte. Il se réveille entièrement. Il voit qu'il fait jour à travers les persiennes qui éclairent la chambre. On continue à taper. Oui, monsieur, venez vite. Madame, il est arrivé quelque chose. Oui, je viens. Bien bon. mets sa robe de chambre, tu étais sur une chaise, et sors de la chambre. Domestique est là, et lui dit, oh monsieur, c'est affreux, madame, venez vite. Et ce domestique, que se passe-t-il? Ils entrent dans la cuisine. Jean est à terre, couché sur le dos, devant le four, la porte ouverte. J'ai trouvé comme ça. Jean gémit faiblement et bave. Frédéric se penche. Oh Jean, Jean! Il la touche et ne réagit pas. Il dit, elle a eu un malaise. Il faut vite appeler un médecin. Bien monsieur. Le domestique s'éloigne. Frédéric essaye, en lui tapotant le visage, mais elle reste sans connaissance. Il sent une odeur de gaz. Se lève, il va ouvrir la fenêtre. Elle a dû être empoisonnée par une fuite de gaz. Mon Dieu, que faire ? Le domestique revient et lui dit, monsieur, le médecin arrive. Frédéric prend la main de Jeanne et lui dit, il faut la mettre dans sa chambre. Le domestique lui dit, non, il vaut peut-être mieux que le médecin la trouve comme ça. Lui chercher une couverture. Il ne faut pas toucher les malades, monsieur. Et il s'éloigne. Il sort de la pièce. Frédéric reste près de Jean. Un quart d'heure plus tard, le médecin examine John. C'est un homme grand, mince, cheveux grisonnants, lunettes, monture dorée, très distingué dans les 50 ans. Il porte un costume gris. Après l'avoir examiné, regardé les yeux, pris la tension, il dit à Frédéric, Homer s'est empoisonné, il faut l'emmener d'urgence à l'hôpital. Il se redresse, prend son téléphone portable, fait un numéro, l'ambulance a amené John et Frédéric pour les soins à l'hôpital Édouard Herriot. Elle est mise aux soins intensifs de réanimation. Frédéric n'a pas le droit d'aller la voir. Du service lui dit, votre mère est dans le coma. Elle a pris des comprimés et s'est empoisonnée par le gaz. Vous savez pourquoi elle a fait ça? Non. Le médecin lui dit, surtout, ne quittez pas les parages. On va vous poser des questions et vous faire faire des papiers. Bien, je reste là. Vous avez quel âge ?
16 ans.
Vous êtes mineur, donc... Si vous vivez seul, vous irez dans une maison en attendant que votre mère soit sortable.
Frédéric lui demande, c'est grave de tort ce qu'elle a ?
Oui, une personne dans le coma, on ne sait pas comment, elle va se réveiller, ni quand.
Frédéric est effondré. Une idée lui vient, que c'est de sa faute si Jeanne a essayé de mourir. C'est parce qu'elle l'aime toujours et qu'elle ne veut pas le quitter. Après tout, ce qu'elle a fait pour moi, je ne pensais qu'à la quitter. Je suis un égoïste. Et sous son mari et non son fils. Le médecin lui dit qu'il peut retourner chez lui. Il n'y a plus rien à faire. Qu'il fallait qu'il aille faire les papiers et qu'on lui téléphonera. Après avoir fait les papiers, il est retourné chez lui et attend au salon devant le téléphone. Après-midi, le téléphone sonne. Il décroche.
C'est Valérie. Je téléphone parce que tu n'es pas venu ce matin au lycée.
Ne pensais plus à tout ça. Il lui dit, il est arrivé quelque chose de grave, ma, et dans le coma. Elle lui dit, ta mère ?
N'ose pas dire ni oui ni non.
Elle lui dit, je suis navrée, elle est tombée malade ?
Oui, très malade, un ennui de gaz.
Ah ? Nous voyons quand ?
Il lui dit agacé, je ne sais pas.
Elle lui dit, je peux te téléphoner, avoir des nouvelles ?
Il lui dit, oui, bien sûr, allez.
Il décroche, il est agacé par elle, parce qu'elle représente sa faute.
C'est de sa faute, s'il a dit à Jeanne. Qui voulait divorcer.
Il est énervé. Puis, petit à petit, malgré que Jeanne soit dans le coma, ne peut s'empêcher de penser à Valérie. Il la désire toujours. Et petit à petit, il est agacé de ne pouvoir la voir. Jeanne passe un second. Il se sent de moins en moins coupable.
Non.
En fin d'après-midi, n'en pouvant plus, de ne pas avoir de nouvelles, n'ayant toujours pas de nouvelles, il téléphone dans l'après-midi.
Allô, hôpital Édouard Herriot ? J'aimerais avoir des nouvelles de Jeanne.
Ah, on lui dit qu'il faut attendre.
Frappe à la porte du salon.
Entrez.
C'est le domestique.
Monsieur, il y a un commissaire de police qui désire vous parler.
Frédéric est surpris et anxieux et lui dit,
faites-le venir.
Domestique sort. Frédéric se dit, les ennuis qui commencent. On frappe à la porte.
Entrez.
Entre un homme, grand,
maigre, cheveux rares, tête châtain, tête osseuse, et est habillé d'un costume froissé gris et d'une chemise blanche. Frédéric se lève et lui demande « Monsieur, vous avez demandé à me voir ?»«
Oui, monsieur, je suis le commissaire Dupont de la brigade criminelle. Je voulais vous poser quelques questions. »
Frédéric lui dit « Allons nous asseoir, monsieur. »
Il lui montre un fauteuil.
Ils vont s'asseoir. Frédéric s'assoit en face de lui.
Je vous écoute.
L'homme sort son ordinateur portable qui est sur la table. Et il dit, tout d'abord, votre carte, monsieur.
Frédéric lui donne sa carte.
Il la met sur l'écran. Votre pouce. C'est ce que fait Frédéric qui met sur l'écran. L'écran marque exact.
Le commissaire lui rend sa carte et lui dit « Vous avez 16 ans. Vous vivez seul. »
« Oui. Bien. Nous verrons ça plus tard.
Je suis venu. C'est à cause de votre mère qui a eu un empoisonnement par médicament et gaz. Pouvez-vous me dire ce que vous avez fait cette nuit ?»
Frédéric lui dit, c'est pas ma mère, mais ma femme.
Le commissaire le regarde bien, lui dit, ah, je croyais. Il peut y avoir erreur sur la carte. Bizarre.
Frédéric lui dit, je vous expliquerai.
Et il lui dit ce qu'il a fait cette nuit et les bruits.
Le commissaire lui dit, si votre mère n'est pas morte, c'est qu'il y a eu une coupure de gaz dans la nuit. Elle a reçu très peu de gaz.
J'ai entaché de savoir pourquoi votre mère a tenté de se suicider. Vous avez une idée?
Frédéric Rougier lui dit, non, je ne vois pas.
Le commissaire lui dit, si elle s'en sort, nous pourrons lui poser des questions. Un suicide, c'est peut-être aussi une tentative d'assassinat.
Bon, vous êtes le fils, le mari, là aussi, nous allons enquêter.
Et cette nuit, vous étiez dans votre lit. C'est le domestique qui vous a réveillé,
bien.
Puisque vous comprenez, on a pu mettre la tête dans le four et partir. On l'a endormi avec des comprimés et on l'a mise dans le four. Les personnes ne savaient pas qu'il y allait avoir une panne de gaz et que ça allait sauver la pauvre femme. C'est plausible.
Frédéric lui dit, oui, je crois, mais c'est pas moi. Et puis pourquoi aurais-je fait une chose pareille?
Le commissaire lui dit, tout le monde peut faire ça, même vous.
Frédéric lui dit, c'est impossible, je l'aime.
Après tout ce qu'elle a fait pour moi, le commissaire lui dit, moi, je ne sais rien. Bon, je vais interroger vos domestiques et vos voisins. Avec vous, j'en ai fini pour le moment. Au revoir.
Il prend son ordinateur.
Restez chez vous. Nous aurons sûrement besoin de vous.
Il se lève et le quitte.
Frédéric reste au salon, pensif.
Le commissaire a fait son enquête, n'a rien trouvé. Il s'est renseigné aussi sur Frédéric et sa mère. Il a compris parce qu'il a lu le procès. Ce temps, à l'hôpital, on essaye de réanimer Jeanne. Frédéric va aux nouvelles tous les jours. Il ne peut la voir, mais le médecin lui donne de ses nouvelles. Frédéric se sent coupable de ce qui s'est passé, mais en même temps, il a une force, un désir de vivre qui le pousse à une autre vie. Il a besoin de jeunes de son âge. Il ne se voit pas accroché à Jeanne. Il se dit que lorsqu'il aura 20 ans, elle aura presque 50. Et lui, 30, elle en aura 60, etc., etc. Il a aussi honte de ses pensées, parce qu'il pense à ce qu'elle a fait pour lui. Mais est-il le mari? Et s'il est le mari, il doit assumer. Et s'il était le fils, ben pourquoi se sacrifie-t-il? Les jours passent. Ce qui s'est passé chez les Rivoire, ça s'est su. Et au lycée, on l'a su. Valérie a appris avec surprise que Frédéric est marié à cette femme. Qu'elle croyait être sa mère.
C'est vraiment une.
C'est pas possible.
Enfin, je m'en fous, j'irai demander.
Frédéric sèche souvent ses cours à cause de cette histoire. Il doit attendre le réveil de sa femme. Valérie veut en avoir le cornet. Est-ce sa femme ou sa mère? En sortant de ses cours, elle le coince. J'ai à te parler. Il lui dit, je n'ai pas le temps. Je fais juste venir te dire bonjour.
Non, pas moi, parce
que tu sais que j'ai des ennuis. Je ne veux pas aller au cours. Elle lui dit, bien. Alors j'aimerais savoir si cette femme qui est avec toi, c'est ta femme ou ta mère? Et le rouge lui dit, c'est compliqué à te dire. Disons que c'est ma femme. Pourquoi? Tu t'es marié avec cette vieille? Il lui dit, arrête. J'y suis pour rien. Allons dans un café. Je vais t'expliquer. Et il l'amène dans un café qui est près du boulevard des Belges. C'est un grand café, brasserie, très chic. Il y a beaucoup de monde, surtout des étudiants. Une fois qu'ils se sont assis à une table, commandé leur boisson, Frédéric lui raconte tout et lui dit, si tu ne me crois pas, je montrerai les papiers. Elle rit toute pâle et lui dit « Je t'aime, moi. » Il lui dit « Moi aussi, mais on ne peut pas. » Elle est dans le coma. Elle lui dit « Elle l'a fait exprès. » Il lui dit « Même si elle l'a fait exprès, elle l'a fait par amour. Comme elle m'a donné une deuxième vie par amour. » Il demande « Qu'allons-nous faire ?» Il lui dit « Je crois que c'est qu'il vaut mieux ne plus nous revoir. Tu comprends ?» Elle pleure. Il lui dit « Oui. » Elle se lève, lui aussi. Elle se dirige vers la sortie. Il la suit. Il a pitié d'elle. Une fois dehors, elle lui dit « Laisse-moi !» et se sauve en courant. Il a envie de pleurer et se dit qu'il doit faire son devoir, qu'il n'est pas libre. Il prend un taxi pour aller à l'hôpital. Les jours passent, petite musique mélancolique du temps qui passe. Et un matin, il reçoit un appel téléphonique.
Réveillé, vous pouvez venir la voir. Merci beaucoup.
Il est heureux. Elle est réveillée après plusieurs jours de coma. Vite, il appelle un taxi pour aller à l'hôpital.
Arrivée au service de réanimation, une infirmière lui dit
« Monsieur, monsieur Rivoire ?»«
Oui. » »«
Le docteur désire vous parler. Suivez-moi. »
Il la suit.
Elle le mène au bureau du médecin, responsable du service. Frappe à la porte.
« Entrez. »
Elle ouvre la porte.
Voici monsieur Rivard.
Bien, faites entrer. Il entre, elle ferme la porte.
La pièce est une grande pièce toute blanche, avec une fenêtre, des plantes vertes, du mobilier de bureau en métal gris. Il dit à Frédéric, venez vous asseoir, monsieur. Frédéric va s'asseoir sur une chaise qui se trouve en face du bureau. Le médecin lui dit, bien, Madame Rivoire est réveillée. Elle n'a pas de séquelles. Elle a eu beaucoup de chance. Nous avons fait des lavements, traitements de réanimation. Elle est très faible. Il serait peut-être souhaitable qu'elle aille en maison de repos. Elle nous a dit qu'elle s'était trompée de comprimé et que ça l'avait mise dans une, disons, une inconscience, qu'elle ne savait plus ce qu'elle faisait. Difficile à croire. Elle devrait consulter un psychiatre. Bien. Elle pourra quitter le service, disons, dans 2 jours. Après, si elle le désire, elle pourra rentrer dans une maison de repos ou chez elle. Frédéric lui demande, je peux la voir? Oui, bien sûr. Le médecin se lève. Venez. Frédéric se lève et il suit le médecin. Ils sortent de la pièce, longent un couloir, ouvrent une porte. C'est un vestiaire. Dit Frédéric, vous allez mettre des vêtements de tenue de protection à cause des microbes. Il lui tend un bonnet, un pantalon et une blouse. Et puis des housses pour les chaussures. C'est en PVC beige jaune. Et c'est un peu comme du papier. Ils s'habillent tous les deux. Et sortent du vestiaire. Longe un couloir. Le médecin ouvre une porte, entrez. Ils entrent. C'est une chambre de malade avec un lit en hauteur. Autour du lit, il y a des tables à roulettes où se trouvent des appareils et des ballons de sang, etc. Des écrans, c'est pour la surveillance. Jean est allongé sous un drap. Elle a la mine défaite, maigre, vieillie, les cheveux en désordre, grisonnants. Elle est très pâle. Elle a, à plusieurs endroits, des taches jaunes, produits qu'on lui a mis. Ses bras sont nus, maigres, blancs et serrés, pendants. Frédéric a la gorge serrée. Il ne la reconnaît pas. Le médecin est derrière lui, il lui dit, approchez-vous. Frédéric, tremblant, s'approche et lui dit, bonjour Jeanne. Elle soulève la tête et lui dit, bonjour Frédéric. Le médecin lui dit, vous pouvez l'embrasser. Frédéric se penche et lui donne un baiser sur le front. Qui est moite et chaud. Il lui dit, je suis vraiment navré. Elle le regarde avec des yeux qui semblent frivoles. Il sait quoi lui dire et faire. Le médecin leur dit, je vous laisse. Et il quitte la chambre.
Frédéric se met à genoux devant Jeanne. Il lui prend les mains qu'elle lui tend et lui demande « Tu vas mieux ?» Elle lui dit « Oui, ça va. » Il lui dit « Je sais quoi te dire, je me sens tellement coupable. » Elle lui dit « Tu n'as rien à me dire. Ce n'est qu'un accident, rien de plus. Un accident tout bête. N'en parlons plus. » Il a les larmes aux yeux et lui dit « Tu en es sûr ?»«
Oui. »
Il lui demande « Tu veux rentrer à la maison ou te reposer dans une maison ?» Elle lui dit « Je serai mieux chez nous. Tu peux le dire au docteur ?» Il lui dit « La police est-elle venue ?» Elle lui répond « Oui, mais ne te fais pas de soucis. Je n'ai rien dit. Ils ont fait semblant de me croire. Tu pourras être tranquille. Ils ont suffisamment de problèmes comme ça. Ils ne reviendront plus. Elle est domestique. » Frédéric lui dit, « Ne pas t'inquiéter. Ce sont des gens gentils. Ils te soigneront sans te demander quoi que ce soit. Ils savent respecter le malheur des autres. Ils ont été très bien avec moi. » Frédéric l'embrasse encore une fois sur le front. Malgré lui, il a froid dans le dos et se dit que c'est sa femme, cette vieille femme, cheveux grisonnants, maigre, et sourit et lui dit « J'ai besoin d'aller chez le coiffeur et de me maquiller. » Demande au médecin s'il peut faire venir un coiffeur. Tu m'amèneras mes produits de maquillage et des vêtements, une brosse neuve. Il se dit qu'elle va cacher ce qu'elle est en se maquillant, comme les comédiens. Mais très vite, il en a du remords et se dit qu'il vient de penser. Il se dit que c'est de sa faute si elle est comme ça, qu'il a une dette envers elle.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, plus en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.